Je vais appeler mes collègues italiens, tous les deux. Vous pouvez venir si vous voulez bien. À savoir qu'on va écouter maintenant, en premier lieu, le professeur Anna Mazzucchi, qui est ancienne présidente d'EBIS. Et nous écouterons ensuite le docteur D'Amato. Et Anna Mazzucchi va nous présenter en fait des aspects cliniques autour de la sexualité, des aspects physiologiques dans le contexte des personnes cérébro-lésées. Et je donnerai la parole, je vous laisserai enchaîner tous les deux. Ensuite, le docteur D'Amato présentera une recherche qui est importante, intéressante, auprès de patients cérébro-lésés en Italie concernant justement les résultats d'une étude sur la sexualité et la vie affective dans la lésion cérébrale. Donc, je vous laisse la parole sans plus tarder et les questions viendront après vos deux interventions, si vous voulez bien.
Alors, ma tâche, c'est pas facile parce que je comprenais par cette journée que la thématique qui du professionnel, du clinicien, c'est pas très très soulignée dans ce type de congrès. Mais enfin, c'est très important que vous compreniez quelles que sont, d'une partie, les difficultés qu'un clinicien doit présenter quand des patients avec une cérébro-lésion sévère à suivre et doit classifier, diagnostiquer quels que sont les problèmes aussi dans cette champ pas aussi facile à observer parce qu'il n'y a pas de tradition. Aussi, les cliniciens n'ont pas l'attitude à diagnostiquer des problèmes qui sont en relation à la problématique sexuelle et affective. Ça, c'est la première considération. La deuxième, c'est qu'il faut comprendre qu'après un traumatisme crânien ou des autres lésions sévères du cerveau, è presque impossibile qu'on n'a pas une lésion, un trouble conséquent à différents types de lésions cérébrales, corticales, sous-corticales, du lobe frontal, du lobe temporal, etc., qui n'ont pas une répercussion sur le comportement affectif, relationnel et aussi sexuel. J'ai décidé de couper un peu la présentation qui est un peu trop longue, mais enfin, c'est important que vous compreniez que presque tous les patients qui ont lésion cérébrale peut avoir des problèmes de ce type et que le rôle du clinicien est de réduire, pour ce qui est possible, l'impact psychologique, émotionnel que ce problème a sur le patient et sur la famille. Alors, nous avons beaucoup de composantes qui sont de caractère neurophysiologique, biochimique, neuropsychologique, qui sont provoquées par des lésions anatomopathologiques de différentes parties du cerveau, cas biochimiques et aussi des syndromes. Les syndromes, peut-être, je les coupe tout à fait pour vous donner une présentation meilleure des parties plus. Des autres parties. Alors, pour la neurophysiologie de la sexe relationnelle, il faut souligner seulement ça. Dans le temps passé, on pensait que toutes les émotions étaient corrélées seulement à un anneau qui est subcortical et qui n'avait rien à faire avec les fonctions corticales. Mais aujourd'hui, nous connaissons que le système limbique qui est à la base de toutes les émotions, de toute la production des réactions émotives, affectives et sexuelles est très collégé avec beaucoup d'aires qui sont distribuées par tout le cerveau, dans la partie subcorticale mais aussi corticale. Et ça constitue une sorte de réseau très compliqué qui peut être en quelque manière peut devenir dysfonctionné en différentes manières à seconde de la lésion ou de l'assez de la lésion, l'unilatéralité ou la bilatéralité des lésions que l'on a. Ce qui est important à souligner encore, c'est que l'amygdale, une petite, je peux l'indiquer avec ça, une petite structure sous-corticale, très petite, qu'on n'a pas considérée assez dans le temps passé, est considérée le point de coordination de tout le comportement émotionnel. Et il faut aussi considérer que ça, et que cette structure est collée avec la cortex associative, ça veut dire la cortex cérébrale frontale, temporale, tout ça, le thalamus, l'hypothalamus, et aussi des structures qui ne sont directement, apparemment collées avec les émotions, mais sont collées avec la fonction visuelle, la fonction auditive, tout ça. Ecco, ça c'est une sorte de schéma que vous montre que l'amygdale qui est au centre du système est collée et reçoit des informations par des cortex différents et envoie des informations à une série élevée de structures additionnelles. Une chose importante aussi à considérer, c'est que ce système, qui s'appelle le système limbique, est très important pour l'apprentissage et la mémorisation des émotions, les émotions gratifiantes ou négatives. Si on n'a pas ce système qui est appropriément conservé, qui a un fonctionnement correct, on n'a pas un apprentissage et continue à développer des comportements négatifs dans le temps. Pour ça, la réhabilitation a des limites, a des difficultés. Et aussi la mémorisation de ça, et de cette gratification ou de cette négative réponse qu'on reçoit par l'environnement peut être pas suffisamment mémorisée. L'apprentissage aussi des émotions corrélées avec le comportement défensif et reproductif est corrélé avec ce système, et aussi l'apprentissage des réponses émotives conditionnées par l'espérience. Quand l'orateur précédent a présenté la difficulté de conditionner ce patient qui elle a décrit avec toutes les personnes qui travaillaient avec lui, peut-être comme manifestation prévalente cette difficulté d'apprentissage parce que le patient n'arrive pas à se conditionner, continue à répéter les mêmes réponses émotives parce que, avec des pulsions intérieures qu'il n'arrive pas à contrôler. Le système limbique est aussi corrélé avec la motivation, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça, mais je veux seulement vous montrer la complexité du système. La composante finale plus importante, ce qui nous permet de contrôler tous les processus décisionnels et de prendre une décision de faire ou de ne pas faire, de choisir ou ne pas choisir, de supprimer un comportement que vous voulez faire ou de ne pas le supprimer, de sostituer un comportement avec un autre qui est plus approprié, tout ça, è correlato con le cortex orbito frontale e noi sappiamo che in tutti i traumatismi carnieni questa parte del cervello è presque tutte le volte o distrutta oppure disfunzionante. Questa zona è alternativa per indicare anche nel diapo quando il sujet doit fare un choix entre des possibles alternatives. Nos patients ont vraiment des difficultés à faire des choix et ont la tendance à répéter continuellement des comportements qui ne sont pas fréquemment adaptés ou sont négatifs. Un rôle principal aussi de cette structure, c'est sur le contrôle inhibitoire. J'ai compris que je ne dois pas faire un déterminé comportement et je n'arrive pas à inhiber, à produire ce type de comportement. Ça, on le peut sauter. Ce qu'on connaît mieux, c'est la partie plus périphérique du comportement sexuel, que c'est la moins importante pour après une lésion cérébrale. C'est la partie qui, presque toutes les fois, remène intacte et n'a pas de problème. La biochimie est très compliquée. On a un système endocrinien qui supporte le comportement sexo-relationnel qui est corrélé avec une correcte fonction de l'hypophyse, de la glande surrénalienne, de l'hypothalamus et encore de l'amygdale qui entre aussi, pas seulement dans la neurophysiologie du comportement, mais aussi dans la neurochimie du comportement. C'est vraiment un point fondamental pour un correct fonctionnement du comportement sexo-relationnel. Le système hormonal est corrélé avec le système sympathique et l'axe hippocampe et amygdale. Je vous montre seulement le schéma est très complexe, justement pour comprendre aussi que c'est presque impossible, comme je dis dans la première partie de la présentation, qu'après une lésion cérébrale, ce système n'est pas parte del dysfonctionnement complessif du système nerveux central. Les neurotransmetteurs qui conditionnent les fonctions sensorielles sont presque tous les plus importants que nous connaissons. Ça, c'est montré dans une présentation très, très synthétique. En plus, en particulier, c'est important de souligner que la dopamine, qui est un neurotransmetteur très important, est à la base des réponses d'excitation, de plaisir, de novité, d'aventure, acceptation du risque, etc. etc. Et c'est très important parce qu'elle est à la base de la production de la sensation de se bien sentir, augmente dans la personne le désir de répéter les activités qui produisent un plaisir. Si on obtient un plaisir avec aussi une action qui est négative, tend à le répéter simplement parce qu'il a obtenu un plaisir dans les premières fois qu'il a adopté ce type de comportement. Son niveau augmente avec un signal de récompense possible ou d'un avantage futur aussi. Ces deux neurotransmetteurs sont très importants parce que sont les deux transmetteurs qui supportent la dépendance sensuelle du partenaire. Il vivre une émotion, un rapport sexuel en couple dépend de ce type de neurotransmetteurs qui s'appelle oxytocine dans la femme et vasopressine dans l'homme. Quand sont réduits, la dépendance, le sens de couple entre les deux personnes peut diminuer de manière dramatique. Elle conditionne, favorise l'attachement sexuel pour une personne en particulier et donc la réalisation de la couple, comme je vous dis. Sans ce type de support biochimique, la couple tend ad avoir des problèmes et l'attachement peut se réduire. Ça peut le sortir. Alors, pour la neuropsychologie, nous avons beaucoup de composants cognitifs et beaucoup de composants comportementaux qui sont à la base d'un correct comportement sexuel. On l'a nommé pendant la matin, mais ici sont synthétisés. On a besoin d'une capacité empathique, critique et autocritique de son comportement, communicative verbale adapte, je dois me présenter avec mes mots de manière correcte parce que l'autre accepte ma communication finalisé à établir un bon rapport émotionnel et aussi sexuel, communicatif non verbal, comme je me montre, comme ma physionomie, ma manière de toucher, tout ça, l'apprentissage relationnel, comme je dois me rapporter avec ces personnes et non avec une autre personne qui a besoin d'une autre modalité relationnelle différente. Reconnaître aussi les émotions et les communications de l'autre, que c'est assez facile dans tous les cérébro-lésions. Sur le plan comportemental, on a besoin d'autocontrôle et capacité inhibitoire, savoir s'arrêter quand on a besoin de s'arrêter, respect des conventions sociales, qui fréquemment sont oubliées, comme le cas que madame va présenter avant, règles morales, respect de l'attention à l'autre, aux besoins de l'autre. Il faut faire tous les fois en réhabilitation un travail très long sur les patients pour faire connaître les besoins des autres, les réponses de l'autre, l'acquisition d'un comportement de l'autre qui peut être correcte dans la relation. La conscience des conséquences des propres actions avec la personne, la famille et dans la société. Alors, tout le monde connaît, je vais très vite maintenant, que les lésions traumatiques produisent systématiquement des lésions frontales, temporales et subcorticales. Toutes les lésions cérébrales que j'ai nommées avant et qui sont corrélées avec le comportement émotionnel, sexuel et relationnel. Donc, il faut l'attendre, il faut prévoir dans le parcours réhabilitatif de tous ces patients des premiers moments que le patient a la capacité de se relationner dans la réhabilitation avec le psychologue, le neuropsychologue, de prévoir un parcours qui s'est donné à ce type de problème. C'est une confirmation que les lésions sont dans cette zone cérébrale, frontale, temporale, je vais vite maintenant. Et aussi, l'autre problème que nous connaissons très bien est la compromission axonale diffuse, qui donne une réduction fonctionnelle globale au cerveau, et donc tout ce qui est encore possible est plus pauvre, est plus réduit en qualité, en quantité et en modalité. Donc aussi c'est le comportement en général, tout le comportement, mais aussi le comportement relationnel, se présente comme avec une réduction de qualité très importante. Je peux s'attendre ça. Les causes biochimiques. Alors, après lésion cérébrale, on a toutes les fois, dans tous les cas, lésion et dysfonction des structures d'interconnexion tronco-mésencéphalique et avec une réduction ou un déséquilibre entre la production de tous les systèmes biochimiques, dopaminergiques, serotoninergiques et tout ça. Et tout ça produit à des troubles comportementaux de l'humeur. Ici sont indiquées les zones du cerveau qui sont plus corrélées avec la production de dopamine, noradrénaline, sérotonine et acétylcholine, qui sont les plus importantes transmetteurs du cerveau qui entrent dans le comportement humain. Et vous voyez que tous les fois sont corrélées avec les lésions frontale et subcorticale, nous avons indiqué que le système limbique s'organise. Alors, on doit prévoir que tous ces systèmes, en quelque manière, ont réduit la qualité, la production et aussi les niveaux de production de ces neurotransmetteurs. On dit qu'on a fait une hypothèse dopaminergique. Dopaminergique, que les symptômes annexés, ça veut dire désinhibition, agressivité, irritabilité, tout ça, sont conséquents d'une attaque hyperdopaminergique. Ça veut dire qu'il y a une sécrétion annexée de dopamine. Et les symptômes, en effet, sont conséquences d'une état de hypodopaminergique. En effet, sont l'apathie, l'inertie, la perte de motivation et tout ça. Un autre chapitre très important sont les troubles sexuels secondaires à l'emploi des pharmacothérapies. Pharmacothérapies qui sont très fréquemment nécessaires dans ces patients. Nous avons besoin d'une thérapie pour l'épilepsie, pour la dépression, des stimulants, des diurétiques et tout ça. Toutes ces pharmacothérapies, et ça sont seulement les plus importants que j'ai indiqués, ont une répercussion sur l'attivité sexuelle et sur le comportement du patient. Il faut le considérer quand on décide de l'utiliser dans la thérapie du patient par rapport à la quantité de thérapie qu'on utilise et aussi de la durée dans le temps. Et si les comprimés ne sont plus importants, non sont plus nécessaires, il faut les réduire et les éliminer ou réduire au niveau thérapeutique que le minimum nécessaire. Bien, les causes cognitives et comportementales, les effets sur le comportement sont bien connus. Je vais vous présenter un schéma très synthétique, mais sont presque tout présent dans notre patient. Quindi irritabilité, colère, agressivité, impulsivité, apathie et tout ça. Disinhibition, réaction catastrophique. Qui nécessite un traitement absolument, comment dire, bien organisé, parce qu'il y a donc des répercussions aussi sur la composante émotionnelle et relationnelle du patient, dans la famille, avec le partenaire et tout ça. Difficulté cognitive interférente, réduite attention, négligence, réduite capacité d'apprentissage, ralentissement, planification et tout ça. Tout chose que vous connaissez, mais il faut rappeler que tout ça peut avoir une interférence. Alors, le traitement du problème principal de ces journées, il nécessite d'un plan de travail qui commence, comme je dis avant, quand le patient est dans la possibilité de commencer à collaborer au traitement et va à toute la durée de parcours réhabilitatif général, très collégué avec le traitement neuropsychologique et, comme on verra aussi après, aussi le traitement physiothérapeutique. Je peux sauter ça. Troubles de caractère. Notre patient change aussi le caractère et a un comportement que nous connaissons très bien, égocentré, qu'on a une réduction importante d'attention à l'autre, je l'ai déjà commenté, réduite d'autocontrôle, incapacité introspective fréquentement pas superable aussi avec la réhabilitation, incapacité d'apprentissage relationnel. La communication, 5 minutes, ok? J'arrive. aussi la difficulté de communiquer peut être un limite relationnel très important, pas seulement parce que le patient n'utilise pas des mots adaptés dans la relation, mais pourquoi aussi on n'a pas la capacité d'utiliser des informations essentielles dans la relation, adaptées à la relation, pour qu'on ne comprenne pas le contexte dans lequel avance ces relations, parce qu'on réduit la capacité de compréhension du discours, un langage insuffisamment communicatif, et l'autre ne comprend pas bien qu'est-ce que le patient désire, difficulté à comprendre des expressions du visage, plus généralement la communication non verbale de l'autre, surtout. Ça, je peux sauter. Les troubles physiques qui peuvent interférer sont une marche gênée, difficulté d'équilibre, mouvement disharmonique, chaleureux, respiration et tout ça. Tout chose que vous connaissez, mais il faut comprendre qu'il faut faire une intervention sur tout ça pour obtenir une amélioration de la relation entre la personne cérébro-lésée et le partner. Les syndromes, je pense que c'est mieux que je l'élimine, sont une série de syndromes connus par les cliniciens qui sont une combinaison de ceux que j'ai présentés jusqu'à ce moment, qui font référence à des possibles. Excusez-moi, que je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, il s'est arrêté tout seul. Bien, alors je m'arrête ici. J'espère que vous avez compris que la tâche des cliniciens est très compliquée, n'est pas seulement une tâche de neuropsychologue et des réhabilitateurs en général. Merci. C'est fermato.
Très bien. Alors, merci à Anna Mazzucchi pour cette présentation sur des aspects physiologiques, biologiques. Et donc, ce que je propose, c'est de laisser la parole tout de suite à notre collègue psychologue, le docteur D'Amato, qui va nous présenter la recherche qui a été faite en Italie, qui continue d'ailleurs cette recherche. Et je propose à Anna Mazzucchi de rester évidemment là pour pouvoir répondre à la fin à vos questions. Donc, merci. Merci.
Good afternoon to all you. And the first time, I'm sorry for my English, but there is an alternative. But I am very grateful to Abis for inviting us to talk about our research on concerning sexuality and relations after a severe cerebral lesion, an observation in an Italian population. we would underline the other's evidences of the importance to support and to improve the ABI persons and the partners also, sexual and sentimental health. We know that a lot of studies reported a decrease in sexual functioning after TBI, but few authors explored the experiences of sexual and sentimental life after brain injury, and only TBI subjects have been studied. Only patients and only traumatic etiology. Then, the object of our study is to investigate the experiences of sexual and sentimental life of a person with severe brain injury, either traumatic and not, and their partners. This was done for the first time with Italian people. Our methodology, for our purpose, we have created a specific questionnaire related to severe brain injury patients, their partners, and their caregivers, divided in two parts. General parts include 22 multiple choice questions dedicated to personal, social, and clinical data regarding the person with ABI. Specific part includes three sections with 25 multiple choice questions in every section, applied singly or jointly to ABI person to obtain information about his or her own sexual and sentimental life, to ABI's partner to obtain information about his or her personal and sentimental relationship, and that of the ABI person, to ABI's caregiver, generally a parent, to obtain information about the sexual and sentimental life of their assisted ABI. Therefore, for each ABI person, we have acquired information from one or two or three sources: the injured person himself, the partner, and the caregiver. Each specific section includes the following area of investigation. The first part, from 1 to 10 questions, is applied to all TBI subjects, while the second part, from 11 to 40, is applied only to subjects with couple condition. ABI patients with Glasgow Coma Scale below 8 and their partners and caregivers required after at least 6 months from the end of their intensive rehabilitation. Severe injured person should have Glasgow Coma Scale below 8, levels of cognitive functioning above or equal 6, neuropsychological function adequate to comprehend and answer the questionnaire, acquired traumatic or no traumatic etiology of a cerebral lesion. The partners should have had an intimate relationship with the ABI person from at least 2 years before the cerebral lesion. The caregivers should play the main care role to the injured person. The questionnaire has been administered singly and directly with the patients and partner and caregiver in three different moments. We have always administered a questionnaire to the patient at the presence of the psychologist. While, as for the partner and caregiver, such presence was optional. Oh, thank you. Our sample is composed to 157 injured persons. 76.4% are male, 23.6% are female. 46 years is the mean age at assessment time. 41 years is the mean age at injury time. The interval, the years post-injury interval is 5 years. All level of disability are represented. 37% severe disability, 37% moderate disability, 26% good recovery. This graphic shows the fact that all type of disability are represented. The information referred to all 157 subjects have acquired from 268 questionnaires. 50% have been fulfilled by ABI subject and by partner. 27% have been fulfilled by ABI subject and by caregivers. Then we have obtained three subsamples, 145 persons with cerebral lesion, 18 partners, and 43 caregivers. Now I'm going to present the principal results from each of these subsamples. Let's examine the ABI results. In this sample, 76%, in other words, three quarters are males and one quarter are females. 46 years is the mean year. All levels of disability are present with predominance of moderate disability. About the marital status, we can observe that there isn't a significant change in the relational status after cerebral lesion, even if we observe an increase of single status after brain injury. More than 50% of the ABI person are moderately or highly satisfied with their sentimental life and sexual experiences too. However, the percentage of dissatisfaction are amply represented year and year. The majority of ABI subjects feel themselves sexually attractive and refer middle or high level of sexual desire. And according to this data, 50% of ABI subjects perform sexual activity without or with penetration. But in contrast, 40% of them know a child's sexual activity, and 10% perform sexual activity by themselves. Thus, the 50% of ABI subjects live their sexuality without a sexual relation. Sexual dysfunction are more linked with severe disability and with advanced age. But there is no difference between the two gender. Considering the answers from only from the ABI persons having a couple relationship, we found the following results. More than 70% of ABI persons report feelings of love with his or her partner and feel themselves happy in their affective relationship. There is a positive association between sexual and relational satisfaction. High level of relational satisfaction is matched with high level of sexual satisfaction. Low level of relational satisfaction is matched with absent sexual satisfaction. Younger male, younger ABI subjects are more dissatisfied than older one. In conclusion, ABI's relational condition remain substantially stable after cerebral lesion. This is more different from previous research, which reported a high rate of change in relational condition. ABI persons are mainly satisfied and interested in sexuality, mention sexual desire, and they feel themselves sexually attractive. Therefore, the 40% of them now achieve relational and sexual activity, and the 10% perform sexual activity by themselves, while about the 50% of ABI perform sexual activity in the relationship with the partner. Younger subjects were generally the less satisfied of their sexual and relational life than older ABI. There is a positive association between relational and sexual satisfaction. There is no statistical difference between ABI males and females in any examined area. Let's examine now the results of ABI partners. Lou represented, I think, in our discussion in this study day. Some sample of partner comprehends 18 subjects, 21% male, 79% female. 50 years is the mean age at assessment time, 3 years is the post-injury interval. Their ABI partners had the following characteristics. 51 years the mean age at assessment, 48 at injury time. Severe disability, 46.8%, moderate disability, 35.4%, good recovery, 16.7%. This graphic show too the categories of disability of their ABI partner, with predominance of cognitive and physical disability and absence, mainly absence, of behavioral disability. So, the 60% of the partners perceive negative changes in their sentimental and sexual relationship after their partner's cerebral lesion. This perception is independent from the type or severity of their ABI partner's disability. However, we can observe here, where is the point? Here, that more of 20% of partners report a low impact year and year, and then and more of 10% non-impact. The partners show a strong degrees trend in the importance attributed to sexuality after their partner's cerebral lesion, but without reach a statistical significant level. So there is a significant association between a low or absent level of sexual desire and absence of sexual activity in the partners. So as a high level of sexual desire is matched with penetrative sex activity. In this graphic, we can note that the partners show more sentimental than sexual satisfaction. Moreover, comparing the sexual activity satisfaction with the feeling in love, we found that partners have feeling of love independently from their sexual activity satisfaction. So, as for them, we can assert that the couple's relationship is mainly played in effective terms. In agreement with this our interpretation, we observe that frequently or very frequently the partners have effective exchange with their mates and they define themselves happy in their affective relationship. Then, partners are those who greater suffer from the sexual relational change in their lives after the ABI event. This data is more consistent with the previous research. Their general interest in sexuality decreases intensely, and so the importance attributed to the sexuality. They still feel in love with their ABI partners independently from their sexual satisfaction. The partners show more sentimental than sexual satisfaction. Their couple's relationship is mainly based on the caregiving to their ABI partners. We also investigated the relationship between ABI person and partners. Analyzing the level of agreement between ABI subjects and their partners' answers, we found a low or absent agreement between them. We could interpret this small sharing as a possible defect in couples' communication. All this, in spite of both the partner referred to spend long time together. Above the caregiver, I show the following results. The majority of caregivers are parents for 3/4. Other responders are sons, other relatives, other people such as nurses. Caregivers reported. Many brain injury subjects actually living with their caregivers were singly already before. But many others before the injury were living a stable or unstable or transient relationship. Relation that finally ended after the ABI. Almost the 50% of all caregivers refer a high negative impact of a cerebral lesion on ABI's sentimental and sexual life. Caregivers believe that the interest in sexuality by their assisted ABI has been significantly decreased after the brain injury. However, if we compare the caregivers' answers to those their ABIs, we observe a complete disagreement between them. We can conclude that the caregivers underestimate the ABI's interest for sexuality. Many caregivers believe that ABI's sexual desire is low or absent. However, also in this case, there is a low level of agreement between the caregivers and ABI's answers. Here. Most of the caregivers refer that their assisted ABI haven't sexual activities, okay, or practice them by themselves. Therefore, report that their assisted ABI have rare or very rare social relationship. Then we presume that ABI living with their caregiver have very few social opportunities to be engaged in sexual and relational interaction. Eighty-one percent of all caregivers believe that their assisted ABI have a low or absent satisfaction from their sexual activities. Also, in this item, we found a low level of agreement between the caregivers and ABI answers. Our conclusion: caregivers underestimate their assisted ABI's interest for sexuality. They little know about their assisted ABI's desire and sexual emotions. The lack of a social life of their assisted ABI may be a barrier to a sexual and effective life. And finally, These are our conclusion. The first, we presume by our result that a lot of ABI are little aware of their sentimental and sexual life. Partners who are more suffering after an ABI event require a specific precoce support to prevent the greater consequences on the couple's affective, sexual, and relational life. Caregivers should be informed and prepared to their assisted ABI's sexual needs and relational difficulties. We should offer an appropriate psychological, medical, educational support to ABI persons and their partners during the rehabilitative journey and after the re-entry at home, in order to improve the communication and relationship between the couple members. And finally, I'd like to thank of all our collaboration in this study, and you for your attention.
Merci pour cette présentation. Et on va maintenant passer aux questions, si vous voulez bien. Anna, peut-être tu peux revenir si il y a une question. Non, tu n'as pas de réponse. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions sur la recherche en particulier qui a été menée auprès des personnes cérébro-lésées en Italie, de leurs proches et de l'aidant? Oui.
Oui, j'ai quelques questions plus au niveau de l'évolution peut-être de votre recherche.
Tu peux parler dans le
micro. You want to speak in English? You prefer in English?
English, yeah.
So I will try in English. I'm not sure it will be easy.
Thank you.
My question is, will you go over this result? Will you follow this result? Because when you show us the result concerning the relationship with the partner, I think that there were almost women, more 80% women and 20% male partner.
Yes?
So perhaps it's important to make the difference between the woman and the man answering, because the feeling of the relationship must be very different, I think, especially concerning the sexual satisfaction. That was one point. The other point was concerning the caregiver. Mm. I think they were almost parents, father and mother.
Yeah.
It seems for me relatively normal that the ABI person doesn't speak about her sexuality to the mother or the father. Mm. You understand what I mean?
Please.
In the result,
the last point.
The caregivers, I think they were almost the father or mother of the ABI person. Mm-hmm. And they have no clearly idea about the sexuality of the ABI. Is it the result? My feeling is that seems for me normal, because I will never speak about my sexuality to my mother or my father.
Yes.
So just...
Real. But... for the last point, but the caregivers during the care of persons, their assisted entry so more, sorry for my English, so more an intimate, no, in the life of their assisted, for more activity, no, so self-care, no, more on relation, more intimate, but. There is no no. There is no comprehension. What is the desire? What is the satisfaction? What is the fantasy? No. Of the assisted, with our relation more intimate, but the sexuality there isn't. I think no. About a difference, no, a sample of partners, the female are more than their males. We had cross, we have matched the data. We found difference between them about desire. Male, for example, are more desired than female. At the same, into female, younger female are more desired with the older one, no? Older one. But this is common epidemiology. This is the reality. No. Mm.
Oui, effectivement, merci. C'était important que dans cette étude, on puisse montrer qu'effectivement, ça se confirme, il y a des différences de représentation de la vie sexuelle quand on est parent par rapport à son enfant, même adulte. Et c'était important que ce soit confirmé par cette étude, en fait, parce qu'il y a, comme vous le disiez, des propositions en termes d'information, de meilleure formation et d'information des proches sur que vivent vos enfants ou que vit votre frère, votre sœur ou votre conjoint. Donc c'est là l'intérêt de l'étude surtout. Oui.
Thank you very much, Dr. D'Amato, for your interesting study. I don't think there are that much studies done where so many people were being asked about their actual behavior in sexuality. Although I want to pose one or perhaps two questions. I understood that the time after injury in this population was 3 years, and that the level, the severity of disability was about one-third. To my knowledge, it must make a lot of difference for a person with good recovery after 3 years or a person with severe disability after 3 years. Because when you take a look at the long term, when it takes some more time for reaching a stable level of functioning for somebody with a severe disability than for somebody with a good outcome. Have you found any differences in your material between time after the event and the level of outcome?
But
this one is the first presentation of the data, the first statistical analysis. This could be a good suggestion to increase the evaluation, the intersection between the data obtained. Really, we have focalized our results on the differences in relation to the previous analysis, because in the other literature report of the literature, there are no absolute observations about the behavior of partner and the caregiver, and so. In this first, that because you have finished the research, I think 2 months ago, realized the simple observation, one by one. And now I understand that there is a necessity to correlate all in a more and more intersection, statistical intersection. So, okay. This is a good suggestion for the future. Thank you.
Thank you.
Une autre question, puisque on remercie l'orateur d'avoir été dans les temps, hein, on est dans le bon timing. Thank you now for your time. Oui.
Bonjour. Merci pour les interventions. Juste une question. D'après les interventions, j'ai remarqué qu'il y a une différence entre les intervenants qui viennent de plusieurs pays. Alors je demande, est-ce que l'aspect culturel, est-ce qu'il intervient dans la sexualité chez les personnes cérébralisées? Merci.
Non, je n'ai pas compris.
Christine,
je n'ai pas
compris. Tu peux...
Non.
Yes.
Oh,
it's a very important point. Yes, it's a very important point. In fact, in ABI subjects, I think that cultural social beliefs impact on the perception of themselves and the perception of her sexuality. I think that a little of overestimate our satisfaction in sexuality is dependent to social and cultural beliefs, Italian beliefs. I answer your question. Thank you.
Encore la dernière question, bien sûr, et puis on fait une petite pause pour terminer avec monsieur.
Mon partenaire est aussi cérébralisé. J'ai la malchance que tous les deux, nous soyons un petit peu plus âgés que les moyennes qui sont passées ici. Je vais avoir 54 ans et mon homme, presque 51. Donc, je me sens un peu supérieur à ce qui a été dit. Et pour moi, le début de mon activité sexuelle a été. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre et lui aussi. Donc, suite, je pense que c'est suite à nos problèmes cérébraux. On a tous les deux mis beaucoup de temps à s'y mettre, et à mon avis, l'âge n'arrange rien dans les choses. Bon, mais donc, seulement pour dire à ceux qui m'entendent, il ne faut pas du tout se désespérer. J'ai l'impression que c'est à la portée de tous, mais il ne faut surtout, par pitié, surtout pas s'énerver. Je pense que ça s'entend. C'est pas du tout facile. Il faut essayer de garder son calme. Et ça, je peux. Je pense que ça s'entend. C'est pas du tout de la tarte. Hein. C'est plutôt, quand je dis rien, c'est du gâteau avec beaucoup de crème fraîche dessus.
Merci.
Merci pour le témoignage et la confirmation de ce qui a été dit par notre collègue dans sa présentation, dans ses résultats. Donc, nous faisons une pause, et si vous voulez bien, 10 minutes ou un quart d'heure. Ah oui, ça dépend de nos collègues qui traduisent. Elles sont peut-être, justement, elles ont peut-être fait la pause. 10 minutes ou un quart d'heure pour la pause, s'il vous plaît. Un quart d'heure, c'est ça? Un quart d'heure? Donc, on reprend à 4h10. 16h10. Merci.
Non, c'était très bien, j'espère. Ça vous a stressé. Mais ça allait bien, hein. Ça a été très bien, c'était clair. Hein.